Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue sur notre page YouTube RTS, la radio du Sud. Merci les amis d'être de plus en plus nombreux à nous suivre depuis 7 ans. Vous connaissez le concept maintenant, un carré VIP, des rencontres avec ceux qui font l'actualité musicale du moment. Et là, l'actualité, elle est tout en haut, tout en haut, tout en haut, parce qu'elle est la chanson française la plus diffusée en radio depuis plusieurs semaines, plusieurs millions de streams. Cette chanson, vous la connaissez, écoutez. Héloïse est avec nous, salut.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci, et toi?
Ça va super bien, je suis super content de te recevoir, c'est la première fois qu'on fait une interview ensemble. Ce que je te propose, c'est alors, déjà on va écouter l'EP qui s'appelle Héloïse, on va pouvoir à travers l'EP apprendre à mieux te connaître, analyser un peu les chansons, et puis on va retracer un peu ton parcours pour essayer de savoir un peu plus qui tu es. Déjà cette chanson, tout ce qui se passe là depuis quelques semaines, comment tu le vis? Parce qu'en fait tout va très vite là.
Ouais, tout va très très vite. J'avoue que c'est assez incroyable tout ce qui se passe depuis la sortie du titre, parce qu'on l'a sorti au mois de mars. En seulement 6-7 mois, on a passé les millions de streams. On a été troisième là tout récemment de l'airplay au général, première française. Tu te dis comment c'est possible, quoi. Moi, j'ai écrit cette chanson en 2016. J'avais 16 ans, c'est la toute première chanson que j'ai écrite. À aucun moment, à cette époque-là, tu te dis qu'un jour, ta chanson, elle va avoir un succès et que c'est celle qui va t'aider à commencer à lancer ta carrière dans la musique. C'est assez fou. J'ai du mal à réaliser.
Au-delà de cette chanson, il y a l'EP qui est là. Cet EP, il y a 5 titres dedans, dont Ebro. Alors, c'est pas forcément facile, mais comment tu décrirais cet EP dans sa globalité en 3 mots?
Authentique, sincère et moi.
Okay. J'ai eu peur que tu me répondes vrai. Je trouvais 3 synonymes quand même. Hein. Mais ok, c'est vrai, ça correspond. On va les analyser, ces chansons, et effectivement, on va voir que ça parle de toi à 100% et on va forcément mieux apprendre à te connaître. T'es d'origine, on va revenir un peu sur les débuts. T'es originaire du nord de la France. Tu viens de Lille ou à côté?
Non, je viens pas de Lille même. Je viens d'une petite commune à 15 minutes de Lille. Mais j'ai toujours habité depuis mon enfance dans le coin. J'ai souvent emménagé à droite, à gauche, mais toujours dans mon nord. Et je compte pas le quitter, parce que moi je suis très très bien là-bas chez les ch'tis. J'avoue que je suis très attachée à mon département. Et voilà.
Et t'as pas l'accent?
Alors si, j'ai l'accent.
Ah ouais,
mais
tu le contiens alors?
Ça dépend. Il y a peut-être certains moments où vous allez vous dire: ah si, elle a l'accent.
Okay.
Si, j'ai, des fois c'est un peu... Quand je me tiens en interview, ça va.
Ok.
Mais des fois, ça peut vite partir. Si, je l'ai quand même.
Ok, donc après l'interview, elle va se lâcher complet. Ça va être... Mais bon, on vous montrera pas tout ça. T'as commencé à chanter à 6 ans, si je me trompe pas. Après, il y a eu le piano. Après, vers 10 ans, la guitare. Il est né comment, cet amour de la musique?
Je pense assez naturellement, en fait. J'ai commencé à chanter effectivement à 6 ans. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était un peu les chorales à l'école. En fait, vous savez, on fait des petits spectacles de fin d'année devant les parents, etc. Et on avait des cours de musique, et je me prêtais beaucoup au jeu. Et mes professeurs, ils me disaient souvent que j'avais une belle voix. Alors, de temps en temps, on me mettait même des petits passages solo, etc. Donc, c'est encourageant. T'as envie de continuer. Donc, après, moi, j'ai continué en autodidacte chez moi. J'ai commencé à me lancer dans le piano. J'ai vite arrêté pour la guitare. Donc je pianote encore un petit peu aujourd'hui, mais bien moins que la guitare. Je préférais la guitare, tout simplement. Et voilà, c'est un peu né comme ça. Je me suis passionnée au fil du temps, et je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin dans ma vie, quoi.
Mais t'as une famille qui faisait de la musique déjà, ou c'est
non.
Vraiment venu toute seule?
Non, pas du tout. C'est
okay.
Vraiment venu toute seule. Non, je partageais vraiment la musique. Avec moi-même et mon lit. J'avais vraiment personne avec qui partager cette passion de la musique. Non, c'est vraiment venu toute seule.
Et quand tu dis toute seule, t'as dit autodidacte aussi dans la manière d'écrire, enfin dans tout, t'as tout fait toute seule. Comment on fait quand on a personne pour nous accompagner? Comment on fait pour même trouver ne serait-ce que les bases? Parce que ça s'apprend pas comme ça. Moi, j'ai essayé la guitare tout seul, j'ai tenu 3 minutes.
honnêtement, j'avoue que j'ai pas vraiment la recette. C'était assez naturel et instinctif chez moi. J'ai un peu l'oreille absolue, donc j'ai beaucoup travaillé à l'oreille. L'écriture, honnêtement, quand j'ai écrit Hey Bro, c'était mon tout premier texte, j'ai tout simplement écrit ce qui me passait par la tête, un peu comme dans un, comme si je parlais à un journal intime. Après, voilà, on commence à apprendre. Voilà, là, il y a les couplets, il y a les refrains, il faut, faut formuler les rimes, etc. Mais c'est venu comme ça. Et puis après, petit à petit, je regardais aussi des vidéos sur YouTube pour essayer d'apprendre à la guitare un peu mieux. Mais voilà, aujourd'hui, vous allez me demander les accords que je joue. Je suis même pas capable de vous dire. C'est vraiment à l'oreille principalement et au visuel des accords.
Bah, tu sais quoi, je te le demanderai pas alors. Comme ça, au moins, t'es tranquille.
Vaut mieux.
Du coup, à quel moment tu te dis... Enfin déjà, est-ce que tu te le dis, ça, ça va être mon métier? Ça, ça va être mon futur? Est-ce que c'est juste un rêve ou est-ce qu'au fond de toi, tu sais que tu vas faire ça?
Honnêtement, pas du tout. Même un rêve, je l'imaginais pas.
Okay.
Au début, c'était vraiment une passion, un kiff à côté. Moi, j'aimais bien. Alors, j'étais très timide quand j'étais petite. Je voulais jamais chanter devant ma famille, devant mes parents. Je chantais que devant ma sœur parce qu'on partageait la même chambre. Et je faisais des petits spectacles à ma sœur. Ma sœur, elle faisait un peu jury ou des trucs comme ça. On était vraiment K2. C'est elle qui m'a encouragée à continuer et à essayer de chanter devant les autres. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose, on s'imagine pas un jour pouvoir réussir à en faire son métier. Donc en fait, on s'autorise même pas à, à le rêver ou à le penser. Pour moi, c'était vraiment au-delà du rêve. Donc j'étais vraiment loin de tout ça et c'était vraiment pas une envie d'en faire un métier au début, plus une passion et un truc que je faisais à côté. Et il y a 3 ans, j'ai vraiment eu un déclic et là, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'en faire mon métier.
Tu viens de parler de ta timidité, mais au-delà de la timidité, il y a ça aussi. Ça, c'est une chanson qu'on a découvert dans l'EP, finalement. J'ai relevé une phrase de Flaubert, peut-être tu la connais, qui disait « Je suis doué d'une sensibilité absurde qui érafle les autres. Ce qui érafle les autres me déchire. » Est-ce que c'est ça l'hypersensibilité
ouais,
pour toi?
Ouais, carrément.
Ok.
Ah ouais, carrément.
C'est-à-dire, ça représente quoi dans ton quotidien, le fait d'être hypersensible?
J'ai appris à le gérer au fur et à mesure. J'ai déjà vu une psychologue aussi, voilà... Il n'y a pas de honte à en parler. Au contraire, c'est pas du tout un tabou. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait tous même en voir un. Ça ferait du bien vraiment
ah oui.
à tout le monde.
Oui, oui.
Et moi, j'ai voulu en voir une pour apprendre à gérer mon hypersensibilité. Parce que quand j'ai été diagnostiquée, déjà, ça m'a permis de comprendre un peu plein de choses sur moi. Pourquoi j'étais comme ça. Et en fait, l'année dernière, j'ai vraiment... Je pense que c'est l'année où j'ai le plus souffert. De cette hypersensibilité parce que j'ai eu il y a eu beaucoup de personnes qui avaient des problèmes autour de moi pas moi spécialement dans ma vie moi honnêtement ça allait mais c'est vraiment s'imprégner de comme je dis dans la chanson s'imprégner des histoires des autres être l'épaule sur laquelle tout le temps les gens vont se reposer parce que ils savent que t'es doué d'une empathie particulière et donc les gens savent que si tu parles de leurs problèmes tu vas tout faire pour les aider mais à un moment donné t'es une éponge et t'absorbes plus, l'éponge elle commence à déborder et ça devient difficile mentalement, psychologiquement et voilà c'est vraiment tout ça l'hypersensibilité, c'est les émotions en excès quand on est, voilà quelqu'un des fois il va vous dire non mais t'as pas besoin d'en faire des caisses pour un truc comme ça mais lui n'est pas hypersensible donc toi t'as envie de te dire ouais moi j'ai pas envie d'en faire des caisses mais c'est mon corps qui réagit comme ça et j'y peux rien et c'est tout en excès et c'est très dur là je commence vraiment à savoir à me connaître un peu plus à savoir me gérer à savoir faire la part des choses entre des choses où je me dis là c'est pas ton problème écoute t'as fait ce que tu pouvais mais t'es pas non plus une héroïne quoi donc tu peux pas tout régler tout faire. Et je commence à apprendre à vivre avec.
Mmh. Je crois qu'il y a environ 15 à 25% de la population en fait, qui est considérée comme hypersensible. Parmi eux, il y a beaucoup de gens qui sont aussi haut potentiel. Ça, c'est vraiment les chiffres qu'ils disent. Effectivement, l'hypersensibilité, c'est ça. C'est cette envie d'aller vers les autres, cette espèce de bienveillance qui fait qu'on a toujours envie d'aller vers les autres. Mais en même temps, après, il faut encaisser. C'est ce que
c'est
tu viens de dire en résumé. Comment tu le vois, toi? Tu le vois comme un handicap ou comme une force?
Je l'ai longtemps vu comme plutôt un handicap et vraiment une souffrance. Parfois, je le vis encore comme ça, très honnêtement. Des fois, je me dis, j'aimerais ne pas être comme ça. Ça me permettrait d'avoir des soirées où je suis tranquille, où j'ai l'esprit tranquille. Mais bon, malheureusement, c'est des choses qu'on contrôle pas. Après, je pense que là où c'est une force, c'est que si tout le monde était hypersensible, le monde se porterait bien mieux, parce que ce sera un monde que de bienveillance et de solidarité, de partage, d'empathie. Mais bon, il faut tout pour faire un monde aussi, hein, donc c'est pas comme ça. Mais voilà, je pense que c'est un don pour pouvoir savoir se mettre à la place des autres, mais ça peut être aussi parfois une réelle souffrance. C'est vraiment les deux, en fait.
Juste là, avec ce que tu viens de me dire, je me suis imaginé ça chez vous, imaginez que les dirigeants de ce monde seraient tous hypersensibles. Je pense que le monde serait pas pareil, mais bon, c'était juste une...
C'est sûr.
Non, mais voilà, je viens de penser à ça. Est-ce que l'hypersensibilité, ça aide dans la musique, par contre? Là, pour le coup, ça doit être une force pour écrire et tout. Ouais. Forcément, on va chercher des mots...
Ouais, totalement. Pour la musique, du coup, forcément, ça m'aide parce que... y a parfois une facilité d'écriture quand je m'inspire des histoires qui se passent autour de moi. J'écris sur ma vie, mais j'écris aussi sur des événements qui m'ont touché de près ou de loin, mais en tout cas dans mon entourage. Et c'est vrai que cette facilité de se mettre à la place des autres, c'est assez facile en fait de se mettre dans la peau de quelqu'un et d'écrire le ressenti, les sentiments de la personne, etc. Et du coup, il y a une certaine facilité d'écriture pour certains textes. Je pense que c'est un atout. Et en même temps, ça me donne des thèmes et des choses à raconter aussi.
Cette chanson, tu l'as entièrement composée, écrite seule.
Ouais,
on est d'accord.
Totalement, ouais.
On s'en réécoute un extrait et après, on continue d'avancer un peu sur ton parcours. On t'a découvert en 2020. Finalement, à la télé, dans une émission que vous connaissez, rappelez-vous. Comment tu t'es retrouvé dans La France a un incroyable talent ?
Par pur hasard. C'était vraiment, surtout sur un coup de tête. Une soirée où j'étais dans ma chambre, j'étais en train de scroller mon actualité Facebook et je vois casting...
Scroller Quand ouais. T'as dit scroller, t'as fait... Non, j'aime bien, c'est marrant.
Okay. Voilà, je défile, quoi.
Ok.
Mon actualité Facebook et je vois une annonce de casting passer pour la nouvelle saison de La France, un incroyable talent. Et j'avais déjà essayé The Voice. J'ai été recalée à chaque fois au dernier casting. Comme quoi, pas besoin de faire The Voice pour réussir.
Il n'y a pas que The Voice.
Et en fait, incroyable talent. Du coup, je me suis inscrite comme ça. Honnêtement, je me suis dit qu'il fallait être pistonnée pour faire ce genre d'émission. Je pensais vraiment pas qu'on allait me rappeler. Moi, je l'ai fait vraiment pour rire à la base et vraiment pour dire, allez, je m'inscris pour rigoler. Et dès le lendemain, j'ai eu un appel pour me dire, bonjour, c'est les casteurs de l'émission Incroyable Talent. On est intéressé par ton profil. Est-ce que ça te tente de passer d'autres castings? On va un peu commencer avec toi, etc. Je dis bon, c'est tout. Maintenant que je suis lancée, allons-y et allons jusqu'au bout. Je me suis dit de toute façon, j'en attendais rien, très honnêtement. Je le faisais vraiment pour le kiff, de me dire voilà, la musique c'est ma passion. J'aurais fait une télé où j'aurais chanté, c'est cool. J'attendais vraiment pas de signer en maison de disque derrière et tout. Enfin, j'étais vraiment loin de tout ça. Et puis j'ai eu 4 oui de la part du jury, un jury super bienveillant, que des retours positifs. Donc j'étais super contente et c'était vraiment une très belle expérience.
Et comment ça se passe après la diffusion? Il y a un décalage de combien de temps déjà entre l'enregistrement et la diffusion?
Je dirais qu'il y a un décalage de 3-4 mois.
Ok, donc déjà les 3-4 mois ils sont pas toujours faciles parce qu'on attend, etc., etc. Mais le jour où l'émission est diffusée, le lendemain, qu'est-ce qui se passe pour toi? T'as des réactions de partout?
Le soir même, je ne pouvais pas toucher à mon téléphone le soir même. J'avais notification sur notification, mon téléphone il buguait et tout. Là tu te dis waouh, c'est incroyable. Et là tu te dis vraiment, il y a tous ces gens. Je crois que sur une soirée, bon, pour quelqu'un qui était sur les réseaux, mais plus, pas plus que ça, je devais avoir 200 abonnés sur Instagram à tout péter. En une soirée, je suis passée à 2000. Tu te dis, ah ouais, c'est fou. Les gens ont apprécié ce que j'ai fait. Ils ont aimé ma personne, etc. J'ai vraiment eu que des messages super gentils et bienveillants. J'ai même pas le souvenir d'avoir eu des choses pour me casser ou autre, et c'est super encourageant et ça te donne envie de continuer.
À ce moment-là, on découvre quelque chose aussi qui maintenant fait partie de toi, en tout cas de ta vie d'artiste, c'est le chapeau. Il a une symbolique particulière ou pas ?
Ouais, tout à fait. Ben, en fait, c'est un peu devenu mon porte-bonheur. Mais le chapeau, moi, depuis que j'ai commencé à chanter sur mes toutes premières scènes, je devais avoir 14 ans, je l'ai toujours mis. En fait, je trouvais ça fun, c'était beau, ça apportait un truc différent au look, etc. Et du coup, je l'ai toujours mis. Et quand j'ai signé avec mon label, j'ai demandé si je pouvais le garder pour mon image parce que il m'avait toujours accompagné depuis le début et que ça me représentait. Moi, je sais que tous mes proches, quand ils m'écoutent, quand ils voient que je fais des concerts, etc., tout le monde sait que j'ai toujours mon chapeau. Et donc, c'était important. Il y avait une grosse symbolique pour moi de pouvoir le garder. Et du coup, voilà. Maintenant, il me suit partout.
Ce soir-là, on découvre Héloïse l'artiste, mais on découvre aussi, enfin, on apprend que t'es gendarme. Alors aujourd'hui, tu l'es plus. Hein.
Non, je ne suis plus.
Mais tu l'étais à l'époque. Et cette vocation de la gendarmerie, elle vient de quelque part. Je te propose qu'on écoute une des autres chansons de l'EP.
Y'a plus de place pour ma haine. Mon enfant sale est trois. Tout mon cœur crie, je t'aime. Mais le monde ne l'entend pas.
Cette chanson, elle nous apprend pas mal de choses sur les raisons qui ont fait que tu as voulu devenir gendarme. Tu peux nous en parler un peu ?
Ouais, tout à fait. Alors, je rentrerai pas dans des grands détails, parce que je suis j'ai beaucoup de pudeur par rapport à ça, mais j'ai déjà été témoin de violences intrafamiliales dans ma vie, et j'ai été beaucoup touchée par ces choses-là à l'époque, et j'ai toujours voulu faire un métier dans lequel j'allais me sentir utile auprès des gens, où je savais que ma présence pourrait rassurer. Que les gens se sentiraient en sécurité quand je suis là. Et naturellement, je me suis dirigée dans la gendarmerie. Avant, je voulais être surveillante pénitentiaire. Et on ne m'a pas beaucoup encouragée dans ce domaine. Même des surveillants eux-mêmes me disaient « Fais pas ça, c'est dur, la vie en prison, c'est pas marrant, etc. » Donc, je me suis dit que j'avais peut-être besoin plus d'un métier de terrain où j'allais bouger, où j'allais voir un peu plus de monde, avoir un peu plus de contact avec la population. Et je me suis dirigée dans la gendarmerie. Alors, pourquoi pas la police ? Parce que, tout simplement, la gendarmerie, c'est militaire. Donc, il y avait un côté plus carré. J'étais plus attirée par ça. Et j'avais vraiment besoin de faire... Enfin, moi, je suis très engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Et je savais qu'en faisant ce métier, j'allais pouvoir aider des personnes, des victimes de ce genre de choses. Et c'était super important pour moi de me dire que, en étant adulte, j'allais pouvoir essayer de lutter contre ça, quoi.
Le combat, il continue, même si ça, c'est une cause qui tient énormément à cœur. Bon, sans être dans la gendarmerie, on peut aussi, nous, hein, même sans être artiste, on peut tous, je pense, à notre niveau, essayer d'aider. Comment on peut faire ?
Ben, je pense qu'il faut tout simplement être à l'écoute, très à l'écoute des gens, aider les gens à en parler, montrer une certaine empathie, montrer qu'on croit les personnes, qu'on a envie de les aider. Et il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être aidées, mais malheureusement, parfois, il faut pousser. Il faut aller plus loin et aller peut-être à l'encontre de ce que les gens veulent vraiment. C'est-à-dire que quand on voit qu'une personne est en détresse, et ben toujours faire les démarches possibles pour pouvoir l'aider. Et c'est déjà vraiment quelque chose de très très important, parce que la cause principale des violences intrafamiliales, souvent, que ce soit un homme ou une femme, hein, moi je fais pas de différence, ou même les enfants, bah souvent la cause première où il y a pas de poursuite, c'est que les gens n'en parlent pas, et ou alors qu'ils déposent plainte et qu'ils ne poursuivent pas. Leur plainte derrière, etc. Et je pense que le début, en tout cas, ça vient vraiment déjà de là.
Toi-même, tout à l'heure, tu m'as dit, bon, voilà, j'ai une certaine pudeur, j'ai pas envie de rentrer dans le détail et d'expliquer, mais j'ai été témoin de certaines choses. Mais finalement, dans cette chanson, on en apprend beaucoup. Donc, comment on fait pour arriver à mettre un texte dur comme ça dans une chanson, alors qu'en vrai ça doit être hyper compliqué, vu que tu dis toi-même que tu veux pas trop en parler?
Alors, cette chanson, moi, je l'ai pas écrite, en fait.
Corson et...
Ouais, c'est ça.
D'accord, ok.
Cette chanson, elle a été écrite par Corson et composée par Tristan Salvati.
Ok.
Et en fait, voilà, un jour, Corson m'appelle pour me dire: j'ai une chanson à te proposer, voici ce que t'en penses. À la première lecture, je voulais pas aller la faire parce que je m'en sentais pas capable et que c'était un texte trop fort pour moi. Et on m'a dit, allez, essaye au moins. Et c'est vrai que accompagné de la mélodie qui est plus entraînante, ça apaise aussi les mots. Et finalement, je l'adorais. Et puis, ça a été comme sur des roulettes.
Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve dans l'EP, je trouve, en général. C'est des textes forts avec des mélodies où on a presque, enfin, on a envie de danser, en fait.
Complètement.
Ça, c'est un peu ta marque de fabrique aujourd'hui.
Ouais, complètement. Mais c'est vraiment, c'est bien de le souligner parce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de représenter mes chansons. Parce que moi, aujourd'hui, je suis super heureuse de la vie que j'ai. J'ai vraiment que du positif dans ma vie. J'ai pas de mauvaises choses. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Je suis bien entourée. Je suis heureuse. Et que je voulais pas un EP qui représentait de la tristesse et de la mélancolie ou sur lequel t'as envie de pleurer à chaque titre. C'est vraiment pas le but. Tu peux avoir envie de verser ta petite larme, mais d'avoir du bonheur et de rigoler. Et c'est comme ça que ma vie est aujourd'hui. Donc, c'était important pour moi d'avoir ce contraste entre les textes qui sont pas forcément toujours très, très joyeux, mais la mélodie qui allait l'être et qui représente mon état actuel aujourd'hui, qui fait que je suis quelqu'un d'heureuse et je voulais pas des trucs qui allaient trop casser les gens. C'était pas le but, quoi.
Et franchement, écoutez-le deux fois, cet EP, parce que quand vous l'écoutez la première fois, franchement, vous avez envie de danser. Et quand vous analysez les textes, effectivement, vous vous rendez compte qu'ils sont magnifique. Donc bravo.
Merci
pour
beaucoup.
Cet EP qui est le premier. On attend l'album qui suivra, j'imagine, dans les mois qui suivent. Juste revenir sur la gendarmerie. À l'époque, quand tu fais La France a un incroyable talent, tu te dis, bah, je sais pas, t'as sûrement pensé à un moment comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont en penser. Et, bon, finalement, la réaction, elle a été super. Parce qu'ils, ouais, t'ont même proposé derrière de chanter sur le site de la gendarmerie nationale, les amis. Regardez. T'as souvent chanté comme ça?
Ouais, alors franchement, la gendarmerie, c'est vraiment une institution que je remercie vraiment du fond du cœur parce qu'ils m'ont beaucoup soutenue dans ce projet musical depuis le début. Quand j'ai fait La France a un incroyable talent, à la base, j'avais demandé à mon commandant de brigade 2 jours à poser et je devais un petit peu justifier pourquoi. Donc j'ai dit que je tournais une émission, en fait. Et là, on me regarde une émission, pourquoi? Je dis, en fait, je chante depuis que je suis petite et je vais faire un incroyable talent et tout. Ah bon, etc. Donc,
ils savaient pas que tu chantais?
Non, ils savaient pas. Moi, je l'avais dit à personne. J'ai pas l'intérêt d'aller m'en vanter. Ou là, si on me pose pas la question, si on s'enseigne pas, moi, je vais pas aller dire de moi-même, voilà, je chante, etc.
Ils auraient pu t'entendre. Je sais pas.
Ouais, non, mais non, franchement, ils ont pas. Ils savaient pas et j'étais pas là depuis très, très longtemps. En plus, je venais d'arriver. Ça faisait un mois, je pense, que j'étais dans ma brigade. Okay. Et quand j'ai fait Incroyable Talent, dès le lendemain, j'ai le CIRPA Gendarmerie, donc c'est ceux qui s'occupent de toute la communication, etc., qui m'appellent pour me dire on a vu ton passage, c'est dingue. Il y a Marlène Schiappa qui aimerait t'inviter Place Beauvau pour le Orange Day pour que tu rechantes ta chanson que tu as faite à Incroyable Talent. Donc c'était pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Du coup, je dis, ah bon, ok, trop bien. Moi, j'avais 8 mois de gendarmerie à ce moment-là, j'étais encore bébé. Tu te dis, waouh, c'est fou de se retrouver au ministère de l'Intérieur. Le directeur général m'a invité dans son bureau. Vous voyez, un peu pour un gendarme, c'est comme si un civil rencontre le président, vous voyez, c'est vraiment une personnalité super importante. Et j'étais super honorée, impressionnée. Il a été hyper bienveillant avec moi. Et on m'a proposé du coup deux fois de chanter avec l'orchestre de la garde républicaine. Donc une fois pour rendre un hommage à des camarades malheureusement décédés en service, et une deuxième fois pour le 8 mars, la journée des droits des femmes. Et c'était une belle expérience parce que chanter avec l'orchestre de la garde républicaine, c'est vraiment incroyable.
Et alors forcément, on peut pas tout continuer. Tu pouvais pas être gendarme et avoir le succès que tu as aujourd'hui avec cette chanson et qui va continuer, j'en suis sûr. Mais tu l'avais toujours dit en même temps. Tu avais dit, si un jour ça marche, je choisirai la chanson. Mais qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui dans la gendarmerie? Il y a bien quelque chose, un petit détail qui te manque?
Mais j'avoue que je suis tellement épanouie dans mon métier de chanteuse en ce moment que j'ai pas trop le temps
d'y penser.
Mais je pense que ce qui me manque le plus, c'est vraiment les interventions, parce que j'aimais vraiment ça. Voilà, pour vraiment aller à ce contact avec la population. Mais finalement, je l'ai autrement. J'ai le contact avec mon public pour leur raconter mes histoires et mes chansons. Donc, c'est pas le même contact. Il est différent, mais je pense que c'est ce qui me manque le plus. Et puis, évidemment, mes collègues, forcément, au-delà du métier. Mais voilà, j'avoue que j'ai pas énormément le temps d'y penser parce que dans la musique, je suis tellement heureuse en ce moment que voilà, j'ai vraiment la tête que là-dedans pour le moment.
On va écouter une autre chanson qui n'est pas dans l'EP. Cette chanson, c'est la première qu'on a découverte de toi 2 ans après ta sortie de l'émission, je crois, La France a un incroyable talent. C'était ça. Toi, oh toi, petit bonhomme heureux avec la mèche devant les yeux. Un titre que tu avais écrit donc, pour ton filleul, c'est
ouais,
ça ?
Tout à fait.
Pourquoi tu as eu envie de commencer avec un titre dédié à ton filleul ?
Alors en fait, moi j'avais déjà Hey Bro, etc. dans mon carnet depuis longtemps. Et Bonhomme Heureux, je l'ai sorti en 2021, je crois.
Fin 2021, ouais.
Et comme c'était la plus récente que je venais d'écrire, les autres, voilà, je les avais dans le carnet depuis longtemps. J'avais envie de sortir un truc un peu plus nouveau. Et j'ai voulu voilà écrire sur la relation que j'avais avec mon filleul, parce que mon filleul c'est toute ma vie, c'est un peu mon fils de cœur. Moi j'ai pas d'enfant, mais il est comme mon fils, c'est le fils de ma sœur, et j'ai une relation très particulière avec lui. On est vraiment un peu comme des meilleurs amis, on partage les mêmes passions. Ma sœur souvent on se dit, si on n'était pas sûr que c'était le mien, j'ai l'impression que c'est ton fils, quoi. On est tout pareil. Il est aussi un petit peu hypersensible en plus, mon filleul. Voilà, j'avais envie d'une symbolique. Je l'ai sorti le 1er novembre parce que c'était son anniversaire et que je voulais vraiment un peu cette symbolique, lui offrir ce cadeau en fait. Et je suis partie là-dessus, et finalement mais je pense que j'ai bien fait, parce que si c'était pas celle-là, je comptais sortir Hey Bro, mais je l'aurais sorti
seul,
et forcément je pense pas qu'il aurait eu le même impact aujourd'hui, parce que t'es pas poussé par ta maison de disques qui va t'aider pour ta promo, etc. Donc c'est différent. Donc le destin a bien fait les choses.
Parce que cette chanson, pour remettre dans l'ordre, en fait, c'est cette chanson qui a fait que le label Joe & Co t'a repéré. Comment ça s'est passé ? Alors le label Joe & Co, pour ceux qui connaissent pas trop l'industrie musicale, c'est le label de Claudio Capeo, par exemple, d'Oshi. Comment ça s'est passé ?
En fait, aujourd'hui, j'ai mon manager qui s'appelle Frédéric Laquet, qui à l'époque de La France a un incroyable talent m'avait interviewé pour mon passage. Donc c'est comme ça qu'on s'était rencontrés.
Parce que c'est un homme de radio.
C'est ça, tout à fait. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés, et il a suivi un peu mon parcours pendant 3 ans. Il prenait mes nouvelles, il demandait si ça avançait un petit peu au niveau des projets. Et il me dit, écoute, si on peut t'aider, il dit, moi j'aime bien ce que tu fais. Si un jour t'as un titre, tu sors quelque chose, bah, il me dit, tu me l'envoies et puis je vois ce que je peux faire. Et le jour où je sors Bonhomme Heureux, je lui envoie, je lui dis, bah, regarde, je viens de sortir ça. Et le jour même, il l'a passé en radio, et il l'a passé quelques semaines. Et moi, j'étais super heureuse, parce que quand tu te sens soutenue en plus comme ça par une radio locale de chez toi, c'est vraiment important. Et donc, du coup, il me dit, écoute, si t'as d'autres titres, donne-les moi et je vais essayer de t'aider. Et je lui dis, j'en ai, mais dans mon carnet, quoi, moi j'ai rien d'autre. Il me dit, va falloir que t'ailles en studio très rapidement. Donc la semaine d'après, j'ai posé 3 jours de congé. Je suis allée en studio, j'ai sorti les textes que j'avais de mon carnet, j'ai fait 5-6 maquettes que j'ai mis sur une clé USB. Donc c'était pas des trucs hyper finis, mais c'était assez élaboré pour présenter quelque chose de correct. Je lui envoie la clé, et puis il commence à essayer de démarcher des maisons de disques. Joe & Co ont été les premiers à répondre et à me demander un rendez-vous rapidement. J'ai eu rendez-vous avec mon producteur Sébastien Saucé, qui a cru en moi tout de suite, qui m'a dit, ton titre là, Hey Bro, c'est celui qu'il faut sortir maintenant. Je lui dis, ok, feu. Et il me dit, je te propose un contrat. Même pas 3 semaines après, le contrat il était signé. on fait la paperasse, etc. Et puis un mois après, Ebro sort. Enfin, ça s'est enchaîné hyper rapidement.
Et on y arrive à Ebro, on va en parler tout de suite. Mais juste avant ça, tu viens de citer ton manager. Et vraiment, ce qu'il a fait là, c'est vraiment, je veux lui rendre hommage parce que c'est exceptionnel. Et c'est ce que les radios aujourd'hui devraient savoir tout faire. Parce que je pense que la radio sert à ça. La radio, on reçoit, on a des gens qui nous envoient des titres en total indé. Nous, on a une émission qui s'appelle le Top Indé, voilà. Et je pense que toutes les radios devraient faire ça, de repérer des titres, d'accompagner des artistes, parce que le rôle premier de la radio, il y a plusieurs années, c'était ça. C'est pas que jouer et regarder ce que jouent les autres pour jouer tous la même chose. C'est pas du tout ça. Le but, c'est d'aider les artistes, c'est de les découvrir. Et franchement, bravo à ce qu'a fait Fred et l'histoire est incroyable.
Il a été un peu mon ange gardien et l'histoire a été vraiment belle. Et c'est vrai que quand j'étais souvent avec lui sur des événements ou des choses comme ça, mais en fait ça me paraissait tout simplement logique que ce soit lui qui me manage. Donc je lui ai tout simplement proposé, je lui ai dit écoute, à part toi je vois personne en fait, parce que c'est toi qui me suis depuis le début, c'est grâce à toi que j'en suis là aussi. Donc ben écoute, continuons l'aventure ensemble. Et puis il était super emballé, content. Voilà, ça démarre. Moi aussi je le remercie vraiment parce que il m'a été vraiment d'une très 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 grande aide.
Bravo. On écoute le single. Alors dans cette chanson elle a un thème clair. Tu parles de ton demi-frère. En fait pendant très longtemps ce demi-frère t'as pas pu le voir, ouais. C'est ça, tu peux nous en parler un peu plus?
Alors en fait Hey Bro, c'est une chanson donc j'ai écrite en 2016, hein, comme je disais tout à l'heure.
À 16 ans.
C'est ça, à 16 ans. Et à cette époque, malheureusement, j'avais... Enfin, heureusement, j'ai un petit frère qui est né. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le droit de le voir jusqu'à ses un an et demi. C'est un demi-frère, hein, que j'ai de mon côté paternel. Je ne vois plus mon père depuis quelques années maintenant. Et donc, à l'époque, j'ai été privée de pouvoir le voir. Et j'ai beaucoup souffert de ça parce que... je rêvais d'être grande sœur d'un petit frère. Et comme je le dis dans la chanson, j'avais vraiment envie d'être son repère, d'être la personne qu'il allait suivre, etc. Et j'en ai gardé un goût très amer de me dire que pendant sa toute première année de vie, j'ai pas pu être là. Je l'ai pas vu bébé, je l'ai pas vu à sa naissance. Et j'ai vraiment beaucoup souffert de ça. Moi, tout comme ma sœur, hein, parce que... On est deux, mais c'est moi qui en parle. Mais on en a beaucoup souffert et c'était important pour moi d'écrire sur ça, en fait, tout simplement. C'était vraiment le premier sujet qui m'affectait le plus et le premier sujet où j'avais besoin d'évacuer un peu ce que j'avais en moi et d'écrire.
Mais aujourd'hui, tu le vois?
Ouais, aujourd'hui, je peux voir...
Il a quel âge?
Il a 10 ans.
Ok.
Je le vois par le biais de sa maman. Avec qui je m'entends très 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 bien, mais je le vois quand je veux, voilà, j'ai envie d'aller. Alors maintenant je peux pas le voir tous les jours parce qu'il habite à 1 heure de chez moi et avec mon planning c'est pas toujours facile, mais voilà, quand je veux voir mon frère je le vois sans souci quand j'en ai envie et aujourd'hui ça se passe très très bien.
Et il en pense quoi de la chanson?
Il est très timide mon frère.
Ok.
Et très réservé, j'avoue qu'il parle, il en parle pas beaucoup. Je sais qu'il comprend, il sait, mais en même temps j'ai pas non plus, voilà, je trouve que 10 ans c'est encore, ouais, t'es un enfant, hein. Je veux dire, j'ai pas envie d'aller lui mettre des choses dans la tête qu'il a pas. Ouais, c'est pas un âge où t'as envie d'aller perturber quelqu'un avec tes histoires du passé, etc. Je me dis, quand il grandira, s'il me pose la question, je lui répondrai. Mais en tout cas, tant qu'il me pose pas la question, je lui en parle pas parce que c'est pas dans mon intérêt d'aller lui embrouiller la tête. Mais je sais en tout cas que sa maman l'a déjà filmé où il m'entend, par exemple, au restaurant. La musique passe et puis il se met à danser dessus, il dit qu'il a envie d'aller voir les gens pour leur dire que c'est lui mon frère, okay. Que c'est pour lui que j'ai écrit la chanson, donc je sais qu'il a une certaine fierté, mais une pudeur avec moi, il en parle pas beaucoup.
Bon, en tout cas les tubes ça reste, hein, donc ces chansons elles restera et effectivement lui pourra dire, eh ben ouais, cette chanson qui a été un tube, c'était moi. Bravo pour cette chanson.
Merci beaucoup.
On en découvre deux autres qui sont dans l'album et une chanson qui s'appelle « Sans toi ». C'est là tu l'as entièrement écrit et composé, ouais. Seul. Elle s'adresse à qui?
Alors cette chanson-là, elle s'adresse principalement à une amie qui s'appelle Émilie et qui a perdu sa sœur jumelle malheureusement il y a 3 ans, je crois. Et quand j'ai rencontré cette amie, je l'ai rencontrée à la gendarmerie parce que c'était aussi une collègue. Et quand j'ai rencontré cette amie et que j'ai appris son passé, c'était très récent quand moi je venais d'arriver. Et j'ai été beaucoup affectée, encore une fois, cette empathie. Voilà, ça m'a touchée particulièrement parce qu'en plus le fait que ce soit sa sœur, c'était vraiment quelqu'un de très proche. Jumelles, on sait très bien que les jumelles ont des relations très fusionnelles. Et moi, j'ai toujours comparé ma relation avec ma mère comme des sœurs jumelles, parce que je suis très, très fusionnelle avec ma mère. Okay. Et j'avais l'impression, du coup, j'ai fait un peu un transfert en me disant « Waouh, c'est comme si je perdais ma mère, quoi. » Et je me suis dit « Mais ça doit être tellement dur. Mais c'est tellement important de se dire que les personnes qu'on a perdues sont peut-être plus là physiquement. » Mais tant que nous, on les fait vivre, elles sont encore là, elles sont là dans nos cœurs. Et moi, je voulais continuer de faire vivre sa sœur à travers cette chanson, lui montrer qu'elle était toujours là et que nous, on doit continuer aussi à vivre parce que notre vie, elle nous attend. C'est pas parce que nous, on continue de vivre qu'on oublie les personnes. Et j'avais envie de lui faire ce cadeau vraiment à cette amie que j'aime profondément. Voilà, je voulais lui faire le cadeau de cette chanson, mais en même temps je mets pas de précision parce que c'est une chanson que tout le monde peut prendre pour soi et que tu penses à tes parents, tes cousins, peu importe, un proche que t'as perdu. Voilà, tout le monde peut s'identifier à la chanson. Moi-même, j'ai déjà perdu des proches, donc je m'identifie aussi dessus. Mais voilà, principalement elle lui est dédiée, mais elle peut parler vraiment de n'importe qui.
Tout le monde peut s'identifier, mais je sais pas si tout le monde aurait eu la force de l'empathie ou de l'hypersensibilité peut-être, qui fait que cette chanson, quand on l'écoute, on a vraiment l'impression que c'est ton histoire. Donc franchement, c'est beau d'arriver à, comme tu as dit tout à l'heure, transférer en fait l'histoire à ce point-là. Super belle chanson. On retient cette phrase qui dit « Maintenant, j'ai compris que tu n'es pas juste parti, tu restes dans mon cœur jusqu'à la fin et moi, je continue mon bout de chemin. »
C'est ouais, ça.
J'aime cette phrase.
Merci beaucoup.
Merci à toi. On écoute la dernière de l'album et celle-ci, tu l'as pas écrit et composé, c'est les Frangines qui l'ont fait avec toi, c'est ça. On l'écoute.
On est toujours là, 20 ans plus tard, on est là, vous et moi, au début de l'histoire, et on est toujours là, 20 ans plus tard, 20 ans déjà.
Et alors là, je vais être totalement honnête, je l'ai écoutée, elle est super, hein. Elle reste en tête, elle est hyper efficace, mais j'arrive pas à l'interpréter.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson ?
Alors en fait, cette chanson, c'est vrai que c'est un peu vague au niveau du texte. On est plus dans ce que l'auteur, lui, ressent et se comprend. Mais je peux vraiment comprendre qu'effectivement, on ait du mal un peu à percevoir de quoi ça parle exactement. Mais en fait, les Frangines qui ont fait cette chanson ont voulu garder aussi une certaine pudeur dans le texte et en fait ne se sentaient pas capables de la chanter. Donc, m'ont demandé si moi... Si moi je m'en sentais capable de le faire pour elle aussi. Et en fait, cette chanson parle de blessures du passé. Mmh. Et que voilà, malgré les coups durs, les moments de doute, les moments de faiblesse, les moments compliqués qu'on a pu avoir dans notre vie d'avant, et ben 20 ans plus tard. Mmh. Donc au début c'était 30 ans plus tard parce que c'était les Frangines qui l'avaient écrite.
Okay.
Mais on a remis 20 ans, donc c'est moi qui l'interprète. Mais c'est pour dire que voilà, 20 ans plus tard, mais on est toujours là en fait, malgré les choses difficiles de la vie, on est toujours présent, on s'est battu pour continuer à vivre et à continuer notre chemin, tout simplement.
Donc, en fait, il faut le prendre d'un point de vue général. Il n'y a pas forcément, il y a pas de raison particulière.
Non, il n'y a pas de raison particulière.
Mais c'est vrai qu'en fait, si je résume un peu la chanson, c'est ça. C'est ce genre de choses où quand vous avez des traumatismes petits, on vous dit, ça va passer, ça va passer.
C'est ça, complètement.
En fait, ça passe pas. Et ce qu'il faut, c'est plus tard, pas que ça devienne une tare, mais que ça devienne, comme tu dis à la fin, je deviendrai une reine avec toi. C'est en fait l'accepter et que ça devienne notre meilleur allié, c'est ça ?
C'est ça, complètement. C'est exactement ça.
Et on le transpose pour la raison qui nous est propre à chacun.
Voilà, c'est ça.
En tout cas, l'EP, franchement, il est juste exceptionnel. 5 titres dans cet EP, dont le Hey Bro que vous connaissiez déjà. Est-ce que tu commences à réfléchir à un album ou pas ?
Oui, bien sûr.
Ok.
Bien sûr. Pour quand encore, je ne sais pas, mais bien sûr qu'il y aura un album, c'est prévu. Il y a déjà beaucoup de textes.
Oui,
aussi.
T'es déjà en train de travailler,
ouais,
j'imagine.
Bien sûr,
forcément.
Je suis déjà en train de travailler dessus. Parce que mon but, c'est de pouvoir continuer de donner un maximum de moi et de chansons aux personnes qui m'écoutent. J'ai pas envie d'en rester là et on a encore un gros stock de chansons prévues qui, je pense, sont aussi dingues les unes que les autres. Il y en a, voilà, si j'avais déjà pu les mettre dans l'EP, si j'avais même pu faire un album tout de suite, on l'aurait fait, mais c'est bien aussi de commencer doucement, mais sûrement. Mais il y a vraiment énormément de chansons, là, déjà prévues qu'on pourrait mettre dans l'album et dont je suis totalement fan, des chansons que j'ai faites toute seule, des chansons que j'ai faites encore une fois en collaboration. J'ai pas mal collaboré avec Corson. C'est vraiment un mec avec qui j'adore travailler. On se comprend beaucoup. Il y a une facilité d'échange entre nous qui est juste incroyable. J'ai aussi fait une chanson avec Vincha et Laurent Lamarca, avec Paul École aussi. Voilà, donc il y a vraiment des textes et des chansons encore qui vont arriver, hein, c'est sûr. Je vais pas m'arrêter là.
Donc il y aura album et aussi de la scène, forcément, parce qu'on l'a dit, hein, ces chansons elles peuvent s'écouter, mais elles peuvent aussi se danser. Et je pense que sur scène ça doit donner quelque chose. Pour l'instant, c'est des premières parties. Il y a quelques jours, là, tu étais en première partie de Claudio Capeo au Zénith de Paris. Mais ça va continuer. Dijon, Épernay. Alors, Dijon, ça sera le 8 décembre. Si vous voulez réserver, décembre, il y a plein de dates. 8 décembre à Dijon, 9 décembre à Épernay, 14 décembre à Lille. C'est chez toi.
Ah, ça, celui-là, je l'attends. Ouais.
Voilà,
je l'attends vraiment.
Ça, c'est la date. 15 décembre à Amnéville, 16 décembre à Amiens. Comment tu te sens quand tu montes sur scène, comme ça, en première partie pour l'instant?
C'est fou, vraiment, je me sens tellement à ma place, tellement bien. Bon, là en plus pour la première fois où je fais une tournée de première partie, je pouvais pas rêver mieux que de faire celle de Claudio, parce que Claudio m'accompagne vraiment là depuis le début. J'avais fait quelques petites premières parties de ses showcases privées quand je venais d'arriver dans le label, et c'est vraiment devenu un peu mon grand frère. Dans ce milieu, je sais que si j'ai des questions, si j'ai des moments de doute, etc., je peux lui envoyer un message quand je veux. Il sera toujours là pour me répondre, et je suis trop contente de pouvoir faire la première partie de ses concerts, parce que l'histoire est belle. En plus, je pense que son public peut être assez similaire au mien. Il a un public vraiment super bienveillant. Après, c'est des moments de stress forcément. Moi, avant de monter, alors je suis jamais trop stressée à l'avance. Je suis vraiment stressée le jour J, quand je sais que ça y est, ça arrive. Mais c'est un stress qui, au bout de 3 minutes, quand t'as fait ta première chanson, il disparaît totalement. Et puis après, là, tu te mets dans une bulle, juste toi, le public et ta guitare. Et puis ça part. Mais c'est des moments juste dingues. Faire des zéniths, hein, je veux dire. Devant des milliers de personnes, c'est pour un début, c'est fou.
Tu commences à penser au jour où tu seras face à ton public, juste à toi ?
Bien sûr, j'ai hâte. Hein. D'ailleurs, après, voilà, effectivement, pour l'instant, comme tu le disais, il y a un EP, donc un EP 5 titres, ça fait une demi-heure, donc c'est très bien pour des premières parties. Mais effectivement, quand les gens commenceront à me connaître encore plus, à écouter mes chansons, quand l'album sera sorti, là, ce sera vraiment l'occasion de pouvoir commencer mes propres tournées et faire mes propres concerts. Et là, j'ai vraiment hâte, parce que tu sais que les gens sont venus pour toi.
Ça change tout.
Ouais, complètement.
Foncez sur les réseaux, les amis. L'EP, tu vois, j'ai pris de l'avance, j'ai déjà dit l'album. L'EP est sorti, il s'appelle Héloïse. On te découvre dans cet EP et il est disponible depuis un peu plus d'un mois maintenant. On va se quitter avec... la question que je pose à tous mes invités.
Okay.
On est revenu sur ton histoire, là, pour le coup, dans cette interview. Si tu avais l'occasion maintenant, toi, de remonter le temps et de t'adresser à toi quand tu étais petite, quand tu avais des rêves, ou pas de rêves d'ailleurs, comme tu nous disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu te dirais maintenant que tu sais tout ce qui t'arrive aujourd'hui ?
Ben, je me dirais, ne baisse jamais les bras, crois toujours en toi, fais-toi confiance, parce que j'ai souvent eu du mal à me faire confiance. Fais-toi confiance et si tu travailles, t'arriveras à tes objectifs.
Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci à vous de m'avoir accueilli.